Thierry Marais est professeur à l'université Gakushin de Tokyo, spécialiste du théâtre et de la littérature française de la Renaissance. Il dit de lui-même, de façon extrêmement modeste et humoristique, qu'il est vaguement traducteur du japonais et qu'il a publié chez Gallimard quelques romans, je cite, dont la lecture ou du moins l'achat, est vivement recommandé à tous les participants du colloque. Et je cite les titres donc de ces romans, L'heure sainte, La rencontre aux enfers, L'amour de loin. Et il conclut sa petite notice autobiographique par ces mots, à part cela, peu dangereux. Alors nous allons voir si ce peu de danger se confirme à l'audition de son exposé qui devrait, je le rappelle, s'en tenir à la demi-heure prévue.
Donc je parlerai de Cromwell et du double langage. Le théâtre d'Hugo n'a pas toujours excellente réputation. Il semble qu'on lui fasse grief de se conformer précisément aux principes de l'esthétique hugolienne, en particulier à cette union du grotesque et du sublime théorisée dès la préface de Cromwell, qui dépasse le simple mélange des genres pour atteindre à l'insituabilité de l'humour, comique à tout instant, pour les mêmes raisons tragiques. Peut-être ne sommes-nous jamais tout à fait sortis du classicisme. Que le comique puisse être triste, à la rigueur, on l'admet, ses façons de le racheter. Mais la poésie ne saurait faire rire sans s'exposer au soupçon de n'être pas sérieuse. Or, parmi tous les drames d'Hugo, Cromwell paraît un des plus mal aimés. Jamais représenté dans son intégralité, phagocyté par une préface envahissante, la pièce tend à se réduire à un point de repère dans l'histoire littéraire. Pourquoi une telle désaffection? Certes, on pourrait invoquer une forme d'inachèvement, sinon littéraire, au moins théâtral, qu'Hugo lui-même avouait en proposant de concentrer son drame pour le rendre admissible à la scène. Mais c'était en 1827. De nos jours, on n'exige plus d'une pièce qu'elle soit jouable. Les événements dont Cromwell et le théâtre sont plutôt moins extravagants que ceux du roi s'amuse ou des Burgraves, les passions moins excuses. Au fond, si le premier grand drame d'Hugo est moins lu, moins commenté que les autres, et surtout que sa propre préface, c'est peut-être parce qu'il dépasse justement les principes de celle-ci, et qu'à l'union du grotesque et du sublime, il ajoute celle, apparemment plus insupportable encore, du léger et du lourd. Dans cette pièce aux dimensions immenses, il ne se passe en effet rien d'autre que du langage. Le langage s'y met en scène, et plus que Cromwell même, en constitue le personnage principal. Se dégageant des règles de bienséance et de vraisemblance, Hugo donne libre cours dans Cromwell à son goût pour deux procédés de présentation du discours, dont le second vient directement de la comédie, le monologue et l'aparté. Ces deux conventions tentent de résoudre un problème éminemment dramatique. Comment communiquer au public ce qui passe dans la tête d'un personnage, alors qu'au théâtre, la pensée, assimilée au langage, ne devient accessible qu'une fois proférée sur la scène. Le monologue et l'aparté partagent un même postulat, que l'existence d'un personnage ne se limite ni à ses actes, ni aux paroles constitutives du dialogue, mais s'appuie sur une intériorité, qu'on n'est pas seulement ce que les autres nous voient faire ou nous entendent dire, mais aussi tout ce qu'on ne dit jamais, qui demeure à l'intérieur de soi, et qui, pour accéder à la théâtralité, doit cependant passer à l'extérieur. La pensée resterait donc toujours à dire, reste résistant, proche du cœur de l'être, dont la mise en mots l'emporterait sur toute autre parole, nécessairement moins fondamentale, puisqu'adressée à quelqu'un qui ne serait pas soi. Convention théâtrale, le monologue et l'aparté reposent sur une contradiction qu'ils dissimulent. L'intériorité dont on parle n'existe qu'en tant qu'elle est parlée, adressée au deuxième degré, à ce destinataire qu'est le public, aux oreilles duquel elle s'exprime intégralement et sans reste. Le monologue et l'aparté sont donc mis en parole du non-dit, discours sérieux, dénonçant le manque de sérieux de tout autre discours, ou du moins son insuffisance. Le monologue développe à voix haute ce qui est censé se passer dans le silence de la méditation intérieure, et dit ce qu'il faut qu'on sache pour que celui qui parle soit vraiment celui qu'il est. L'aparté déclare en mots le manque d'adhésion du locuteur aux mots par lesquels il prétend être. Et l'on voit qu'au nom des mêmes principes, ces deux procédés opèrent de manière opposée. Car le monologue s'ajoute au dialogue pour composer du personnage une image cohérente et prétendue complète, alors que l'aparté s'y soustrait, démentissant ce qui vient d'être dit. Si le premier jouit de la positivité qu'on prête aux confessions, le second n'est là que pour nier. Est-ce pourquoi Hugo, qui dans la suite de sa carrière dramatique ne se privera jamais du monologue, tendra en revanche, après Cromwell, à limiter sensiblement l'importance de l'aparté? C'est que l'aparté n'est pas seulement peu vraisemblable ou trop marqué par son origine comique. Surtout, il est ravageur parce qu'il force à poser la question du crédit qu'on accorde à la parole. Les apartés de Cromwell, qui déplaisaient tant à Sainte-Beuve, sont trop variés pour qu'on tente seulement d'offrir une idée de leur diversité. La scène 7 de l'acte 5 présente même le cas assez rare d'être composée de deux séries d'apartés, l'un de Lambert, l'autre de Barebon, évoluant parallèlement, sans intervention du dialogue. Monologue alterné de deux personnages qui ne se parlent pas, peut-être imitation développée de la scène 4, acte 1 des Fourberies de Scapin. Indice par excellence du double langage, l'aparté est l'apanage tout particulier du personnage de Cromwell, mais aussi de tous ceux qui, pour une raison ou l'autre de l'intrigue, sont amenés à jouer un rôle avec lequel ils ne se sentent pas en pleine solidarité. Lord Rochester, travesti en puritain et surpris de l'efficacité de son propre déguisement, Davenant, le poète lauréat, espion de Charles II et familier de Cromwell, le corroyeur puritain Barebone, déchiré entre les intérêts de la foi et ceux de sa bourse personnelle, qui l'amène à dénoncer la conspiration dont il est un des principaux membres, et tant d'autres encore. Le lieutenant général Lambert, traître en puissance à tout ce qu'on peut trahir, et chef de conspiration sans envergure, réussit l'exploit de mêler dans une seule scène deux niveaux différents d'aparté, témoignant d'une intériorité particulièrement riche, partagé entre l'ambition de détourner à son profit le complot républicain, j'aurai le diadème. Quand tu m'auras servi comme j'aurais voulu, l'échafaud de Capel n'est pas si vermoulu qu'il ne supporte encore un billot pour ta tête. Acte 2, scène 9. Et la lâcheté qui l'amène à regretter sa participation à ce même complot. Allons, c'en est donc fait, me voilà compromis. Ils m'ont choisi pour chef. Pourquoi l'ai-je permis? Même scène. A l'inverse, car puritain sans concession, refusant la liberté offerte par une autorité qu'il ne reconnaît pas, n'a qu'un langage comme il n'a qu'une parole. Ses répliques sont toujours adressées à voix haute et de face. Tout entier dans ce qu'il dit, il ne divise pas son dire, ni constitue nulle réserve d'arrière-pensée. Infinie répétition du même, ainsi que le montre la kyrielle des malédictions adressées à Cromwell à la scène 14 de l'acte 5, sa pensée n'a justement pas d'arrière. Et telle est justement sa folie. Homme à ses propres yeux, acte 2, scène 8, car n'est aux yeux des autres qu'un autre original plus amusant qu'hors monde, acte 1, scène 5, un incurable, acte 2, scène 9, qui a l'air de manquer à Bedlam, Bedlam qui est l'asile de fous de Londres à cette époque. L'humanité, dans Cromwell, n'a pas généralement un langage si uni. C'est une humanité duplice, dont l'hypocrisie se menait en une série de situations proprement comiques, quiproquos, réticences, commentaires, toute une série d'actes manqués, dont le moindre n'est pas, pour Rochester, d'échanger les enveloppes des deux messages contradictoires qu'il veut envoyer, d'une part à Lord Ormond, chef du complot royaliste, d'autre part à Frances Cromwell, fille du protecteur et objet de sa flamme, adressant ainsi un quatrain galant au vieux conjuré et à la jeune femme les renseignements nécessaires à l'enlèvement de son père. De cette multiplication des éléments bouffons, dont Hugo se montrera malgré tout moins prodigue dans les drames postérieurs, naît la complexité générique de la pièce, l'impossibilité où l'on demeure à la situer, fût-ce aux confins du grotesque et du sublime. C'est qu'en l'occurrence, l'enjeu n'est pas dans la mise en question des classes sociales, comme dans Ruy Blas, ou dans une interrogation sur la légitimité, dans Hernani, mais porte sur un problème, si j'ose dire, d'idéologie seconde. Il s'agit des effets du langage, tels qu'ils se manifestent dans des effets de langage. Jeu de langage et mise en crise de ces jeux mêmes. Ce qui sépare en effet les factions en présence et déchire intérieurement le personnage de Cromwell lui-même, c'est l'utilisation des mots. Disons plutôt que chacun se livre au prestige d'un discours qui lui est propre, rhétorique particulière que sa confrontation avec une autre va conduire à révéler son insuffisance, ou plutôt l'excès de suffisance qui lui fait perdre contact avec la réalité. D'une telle diversité du langage témoigne d'abord l'hétérogénéité des modes d'expression. Car cette pièce en alexandrin, trouée par un moment de prose, la lettre de Mazarin à l'acte 2, accueille aussi toutes sortes d'autres vers, en particulier des chansons, dont la virtuosité métrique rappelle les ballades contemporaines d'Hugo, et grâce auxquelles, à partir de l'acte 3, les quatre fous de Cromwell montrent le bout de l'oreille. C'est bien d'oreille, en effet, qu'il s'agit. Dans ce drame du livre, où la Bible tient tant de place, la parole n'agit qu'en tant qu'elle est sonore. Comme dans les pièces ultérieures d'Hugo, l'alexandrin lui-même affiche l'incertitude de son statut entre écriture et voix, ne serait-ce que par le jeu des e-muets, tombant au milieu d'un vers, mais en fin de réplique, et devant une consonne, bien sûr, chose trappe dont un metteur en scène comme Vitesse tirait le meilleur parti. À cette complexité du langage participe la multiplication des langues. Certes, dans Cromwell, l'anglais ne figure qu'à titre de couleur locale, seulement dans les noms propres. Mais son introduction dans le vers ne manque pas d'y introduire des perturbations amusantes. Joyce, prononcé en direct, Joyce. Barebone, en trois, barebone, ou même quatre, barebone, syllabes. Milton, rimant avec ton et avec canton. J'en passe, et des meilleurs. Surtout, la présence de l'anglais, langue étrangère, que la convention théâtrale confond avec le français parlé par les personnages, prépare une nouvelle distinction à l'intérieur des modes de langage, celle d'une langue étrangère envisagée non pour son étrangeté, mais comme référence de discours. Je veux parler du latin, dont les nombreux juristes de Cromwell entrelardent leurs débats, le temps d'un mot, d'un hémistiche, ou même, à la scène 13 de l'acte 5, d'un vers complet, nullus homo liber in prisonietur, rimant avec le nom du roi Arthur. Le latin vaut à lui seul tout un discours, celui du droit en tant que construction humaine, historique, en grande partie romaine, et qui s'oppose alors à la parole de Dieu. À ce latin, parole d'homme en langue étrangère, vient massivement répondre une autre langue qui, pour être du français, n'est pas moins étrangère. Les puritains de Cromwell, Cromwell lui-même, et les cavaliers royalistes, lorsqu'ils veulent se faire passer pour des saints, parlent en effet un jargon fort étrange, pétri de citations vétérotestamentaires et de tournures sacrées, imitant les traductions de la Bible en langue vernaculaire. Ce qu'en France, on appelait autrefois le langage de Canaan, bien connu des lecteurs d'Agrippa d'Aubigné. Autant que le latin, ce discours religieux constitue un univers de référence. Mais il dispose en outre d'une plasticité qui le rend propre à engendrer toute une série de propositions métaphoriques applicables à la plupart des situations au moyen d'un système d'équivalence assez simple. S'assimilant au peuple juif dans les moments de son histoire où celui-ci renouvelle ou renforce l'alliance avec son Dieu, le locuteur et ses amis se désignent par les noms d'Israël, de Juda ou de Sion. Aux ennemis sont réservés les personnages négatifs de la Bible. Babylone, et donc Moloch, Baal ou Nabucodonosor, et tous les méchants patentés, Hérode, Agag, Sennachérib. On se traite de Madianites ou d'Édomites, de Sodomites curieusement jamais. L'écriture sainte est traitée comme répertoire d'exemples, une table d'homomorphisme. Selon ses habitudes, Hugo emploie son érudition à composer un tourbillon étourdissant, où s'enchevêtrent le connu et le moins connu, le totalement ignoré et le si totalement ignoré qu'il en devient franchement louche. Allégorie systématique, flot d'allusions en liberté, le langage de Canaan transporte d'emblée la réalité donnée de l'Angleterre du XVIIe siècle dans un espace tout autre, noble, embrassant de multiples siècles et la vaste géographie de l'histoire sainte. Le contraste qui en découle doit provoquer le rire. D'une telle logorée, en effet, la Bible fournit le seul point de cohérence. Que par l'ancrage qu'elle apporte dans le sacré. Terme à terme, pseudo-citation n'offre qu'une signification minimale, et même parfois douteuse. Nombreux sont encore moins les débats sur l'interprétation des textes, par exemple à la scène 9 de l'acte 1. De sorte que le doute se propage à l'ensemble du langage, et que le mouvement de référence généralisé déborde si complètement l'attention de celui qu'il profère, qu'il la submerge, emportant avec lui ceux qui en font usage. Révélatrice, à cet égard, est la scène 15 de l'acte 2, dans laquelle le royaliste John Wilmo, comte de Rochester, déguisé en puritain sous le nom d'Obededom, subit de la part de Cromwell un examen sur la foi. Non seulement Rochester, courtisan léger et poète galant, témoigne à l'occasion d'une érudition vétérotestamentaire peu commune chez les catholiques, mais il se montre capable d'élaborer toute une théorie de la grâce efficace qui, appliquée aux relations du chrétien avec son Dieu, a aussitôt pour effet de le transformer en docteur, voire en apôtre. Le don des langues vient à qui parle souvent et beaucoup, à part, j'en suis bien une preuve. Devenu simple conséquence de la foi, le don de prophétie s'assimile au simple don de la parole. Sans la foi, l'homme rampe. Mais veillez, éclairez votre âme avec la lampe. L'âme est un sanctuaire et tout homme est un clerc. Dans le foyer commun, apportez votre éclair. Les prophètes prêchaient sur les places publiques et le Saint-Temple avait des fenêtres obliques. Le plus amusant est que cette divagation, délirante aux yeux de Rochester lui-même, je consens qu'on te pende, Obededom Wilmo, si de ce que je dis je comprends un seul mot, soit cependant immédiatement intelligible pour celui qui l'entend, et puisse entraîner ce commentaire en aparté de Cromwell. C'est un anabaptiste, il est fort en logique, mais sa doctrine au fond est très démagogique. Celui qui parle devient ce qu'il dit, le devient malgré lui-même. Voilà donc Rochester, anabaptiste. Et c'est en tant qu'anabaptiste qu'à l'acte 3, le caporal Cham Biblechan le mariera malencontreusement à Dame Gugligua. Ainsi, le langage de Canaan fournit-il un modèle de fonctionnement qui, à un moindre degré, peut s'appliquer à tous les autres codes rhétoriques utilisés dans le drame. Au langage nobiliaire des conjurés royalistes, nourri d'histoire anglaise et de mythologie classique, au langage galant que Rochester emprunte au roman de Mademoiselle de Scudéry, au langage juridique du docteur Jenkins, au langage médico-astrologique du juif Manassé Ben Israël. Certes, tous ces discours ont d'abord pour objet de caractériser les personnages comme autant de signes de reconnaissance. Mais c'est à l'instar de ces masques qui, dans certaines formes du théâtre, distinguent Arlequin et Pantalon. Et ils finissent par prendre toute la place, à la fois parce qu'ils constituent ce théâtre en sa forme particulière, et parce qu'ils sont doués d'une vie propre, qui les entraîne au-delà de toute intention vraisemblable. Là encore, l'examen sur la foi de l'acte 2 se révèle exemplaire. Non seulement Rochester Obededom s'y laisse entraîner à émettre les propositions théologiques les plus farfelues, non seulement Cromwell trouve assez de sens à cette logorée pour la contester, mais la référence biblique y met à jour un non-dit qu'aucun des interlocuteurs ne paraît apercevoir. Interrogé pour savoir s'il convient de porter les cheveux longs ou courts, Rochester veut complaire au chef des têtes rondes et répond étourdiment « court ». Cette position s'appuie sur un épisode fameux du second livre de Samuel, 18:9-15. Par ses longs cheveux blonds, Absalom fut perdu. Or, pour une partie de la tradition chrétienne, la révolte d'Absalom contre son père David, péché capital sanctionné par la mort du coupable, représente une attaque contre la légitimité du droit divin. La propagande royaliste en France, Marot même, dans sa traduction des psaumes, y voit l'exemple par excellence des malheurs qui attendent quiconque entre en conflit avec un souverain assimilé à David, élu de Dieu, préfiguration du Christ. De sorte que l'exemple qui vient spontanément à la bouche d'Obededom traduit en réalité l'idéologie de Rochester. et couronne l'ambiguïté d'une référence biblique dont le délire abolit la frontière entre l'être et ses masques. Rien d'étonnant dans ces conditions si le contre-argument sur le champ opposé par Cromwell « Oui, mais Samson fut mort quand Samson fut tondu » en appelle à un autre masque dans lequel le protecteur d'Angleterre aimerait à se reconnaître, celui du héros entouré de Philistins, juge 15-16, et dont la défaite ne saurait être due qu'à une trahison, à cette trahison même dont son interlocuteur est, sans qu'il le sache, un agent. L'échange des arguments bibliques exprime ainsi une vérité qui dépasse l'intention de chacun. Les paroles proférées développent leur propre discours, dont tout indique qu'il ne peut se rapporter complètement à aucun des personnages, pas plus qu'à une voix auctoriale, par définition introuvable au théâtre. La structure ici employée n'est pas inconnue de la dramaturgie classique. C'est celle de l'ironie tragique, par laquelle un personnage en dit plus qu'il ne croit dire, et donc beaucoup plus qu'il n'en sait. En développant le procédé sur la pièce entière, Cromwell aboutit à ce paradoxe de produire cette ironie tragique par les moyens de la comédie. Le langage joue ainsi, pour lui seul, sa propre partition, devient mouvement pur, force qui va, vous l'attendiez celle-là. Nul ne peut l'arrêter, pas même le guider, ni s'en prétendre maître. Agi par sa parole, le locuteur perd pied, happé par un monde qui ne peut plus être le sien. À plusieurs reprises dans Cromwell, cet autre monde, à la fois hostile et inévitable, ce monde formé de mots où les mots seuls importent, apparaît comme celui du rêve. N'est-ce pas matière de rêve quand, possédé par une érudition biblique anarchique, Rochester en vient à trancher, tel un juge au livre des juges, chapitre 12, un dilemme qui porte justement sur la prononciation des mots, à savoir s'il faut brûler ou pendre ceux qui ne parlent pas comme Saint Jean parlait et disent « cibolette » au lieu de « chibolet ». Alors que Cromwell renonce à répondre, rangeant le cas entre les plus subtils et les plus délicats, voilà que Rochester, sans hésitation, condamne les coupables virtuels au gibet, arguant qu'on y monte au moyen d'une échelle et que « Dieu fit voir en rêve à son berger fidèle qu'on monte au ciel de même au moyen d'une échelle ». La référence biblique introduit cette confusion du rêve et du réel, qui permet de décider du supplice au nom d'une pure analogie. Certes, le crime que punit un arrêt si sévère est purement imaginaire, car désormais, ces mots hébreux, le correct et le fautif, existent uniquement dans l'énoncé du problème qu'ils posent, de sorte qu'on ne prononce « cibolette » que pour interdire de le prononcer. Le jugement est absurde, mais il s'applique à un crime improbable, de sorte que Rochester peut impunément surenchérir, et, avec le coupable, condamné sous une même haine, son père amoréen, sa mère cétéenne. Les objets d'une telle rigueur n'existent pas, n'ont aucune chance d'exister, même si Rochester paraît l'oublier lorsqu'il s'exclame, en aparté, « Voilà de pauvres gens bien jugés sur ma tête ». D'un tour de langue à l'autre, la notion du réel s'est perdue. Le rêve l'emporte, et la folie, qui permet au bouffon de la cour d'applaudir, par la bouche de girafe, frère, aucun de nous n'aurait mieux prononcé. De cette folie du rêve, les bouffons de cour sont en effet les représentants attitrés. Leur contribution à la pièce dépasse largement celle d'un contrepoint critique, unissant dans une même fonction les fous de Shakespeare et les chœurs de la tragédie antique. Dès leur apparition, au début de l'acte 3, les quatre bouffons commentent moins l'action qu'ils n'assurent la liaison intime du rêve et de la parole en liberté. Ainsi, Gramadoc peut-il chanter « Par deux portes, on peut m'en croire, les songes viennent à Paris, aux amants par celle d'ivoire, par celle de corne au mari. » Cette chanson calomnieuse, pour l'honneur d'Élisabeth Bourchier, femme de Cromwell, n'est de son propre aveu qu'un mensonge, pure création d'un discours ivre de lui-même. « C'est juste, je mentais, je ne puis le sceller. Quand on n'a rien à dire, on parle pour parler. » Il s'ensuit qu'ainsi traversé par le langage, les personnages traversent à leur tour la scène comme ils le feraient d'une autre scène, celle de l'imaginaire, scène de l'autre monde en celui-ci visible. S'y déplaçant comme dans un rêve, ce rêve particulier du théâtre dont Octave Manoni a dit que le mot d'ordre était « je sais bien, mais quand même ». par un dernier retournement, c'est sans doute justement cette impossibilité à croire au moment qu'on est en train de vivre qui multiplie les apartés et tous les signes par lesquels chacun se désolidarise à tout instant du milieu dans lequel il se trouve plongé. L'union du rêve et de l'action, l'irresponsabilité jointe à la force agissante, s'exprime à travers une métaphore aussi traditionnelle que réflexive, celle du théâtre. Les personnages du drame sont des marionnettes entre les mains de Cromwell, mais Cromwell lui-même est jugé par le public, malicieusement incarné par quatre bouffons aux noms extravagants. Pour clore le concours, dans ceci, les plus fous, même en comptant Cromwell, messieurs, c'est encore nous. Aussi, dans la diégèse de ce drame, tout conduit-il au dernier acte au pied de cette estrade, changeant de nom selon l'étoffe qui la cache, du velours c'est le trône, un drap noir l'échafaud, échafaudage offert au regard du peuple et à ses commentaires, comme un théâtre bien sûr. Rien ne manque à ce trône abominable au monde, à ce hideux théâtre, à cet hôtel immonde. Le 5 scène 2. Cette théâtralité affichée justifie le final, expédié en forme de happy end, dans lequel Cromwell pardonne à tout le monde et termine en apothéose quasi aristotélicienne. Il inspire l'amour, il inspire l'effroi, il doit être content. Si ce théâtre a partie liée avec le rêve, c'est d'abord parce qu'il opère par la seule matière des mots. Un mot lui donne sa colonne vertébrale et vient clore le drame, le mot « roi », dont il est constamment répété qu'il n'est rien d'autre qu'un nom. « J'ai bien l'autorité, mais je n'ai pas le nom. » Acte 2, scène 6. Dans cette pièce, le pouvoir des mots n'est pas seulement de faire rêver les personnages, mais de les faire agir, agir en rêvant, donc, comme autant de somnambules, ou plutôt comme les victimes d'une séance d'hypnotisme. Caractéristique à cet égard me paraît être la correspondance, de l'acte 3 à l'acte 5, des deux scènes principales dans lesquelles apparaît Milton. Dans la première, le poète aveugle espère convaincre Cromwell de renoncer au trône à l'aide d'une longue tirade qu'il termine audacieusement par ces mots d'hypnotiseur. Il n'a fallu qu'un mot pour créer la lumière, toi redeviens Cromwell à la voix de Milton. À la scène 12 de l'acte 5, c'est au moment même où Cromwell arrive au pied du trône que la voix de Milton l'arrête. Et son « mané tessel fares », qui rime avec « secret », constitue le déclic qui, dans les termes mêmes des didascalies, provoque le retour à la conscience lucide. Cromwell, comme s'éveillant en sursaut, arrêté. Le rêve éveillé de Cromwell s'abolit à la voix de Milton, mais avec deux actes de retard. Pourtant, l'illusion reste forte. Le sommeil de la raison continue à guetter. Dès qu'il a tourné le dos à son poète, le protecteur recommence à rêver. Chacun connaît les mots qui terminent le drame. Cet hémistiche réduisant à néant les cinq actes précédents pour ramener l'histoire à son début. Quand donc serais-je roi ? On se rappelle peut-être moins la didascalie qui introduit cette réplique et qui tient en un mot l'adjectif rêveur. Si l'homme est le rêve du nombre, la première grande pièce d'Hugo fait du théâtre un rêve du langage.
Je remercie beaucoup Thierry Marais, non seulement pour la qualité de son exposé, mais aussi pour sa concision, au prix peut-être d'un débit que nos auditeurs japonais auront pu trouver rapide.
Je leur présente mes excuses.
En tout cas, il a bien choisi son sujet, mais aussi ses destinataires, car dans cette salle, plusieurs de ceux qui sont présents aiment et défendent Cromwell depuis longtemps. Je pense à Claude Duchet, naturellement, mais aussi à Florence Nogrette, à Daniel Gazigli-Alaster, à Henri Méchonic et à Nicole Savy. Henri Méchonic, sûrement sensible à tout ce qui, dans cette pièce, se rapporte à la Bible. Alors, le débat est ouvert. Nous sommes en principe pendant le temps de la pause. Alors, je ne sais pas si l'on peut... Alors, Patrick Rébonard me fait signe qu'on peut décaler, en effet. Donc, prenons quelques minutes pour ce dialogue que j'espère... qui, j'espère, va s'engager. Donc, la parole est à qui la demande. Florence Nogrette.
Je vous remercie pour cette communication passionnante. J'aurais deux, trois questions à vous poser ou suggestions peut-être à faire. Je ne vais peut-être pas les faire toutes ensemble, mais une première sur l'aparté. Je crois qu'on pourrait peut-être rajouter une autre fonction de l'aparté à ce que vous en avez déjà dit. Enfin, ça compléterait, à vrai dire, je pense que ça irait dans le sens de votre interprétation. Bon, l'aparté s'adresse très directement au spectateur. Hein. Dans la double énonciation, il a cette particularité de ne s'adresser qu'au spectateur hein, et non pas à un autre personnage, comme c'est le cas habituellement de la double énonciation, de s'adresser et à un autre personnage et au spectateur. Et dans cette mesure, l'aparté a un rôle qui, chez Hugo, me semble-t-il, particulièrement, de manière particulièrement frappante, est un rôle de distanciation. C'est-à-dire que c'est au spectateur, enjoint par le personnage de le faire, de porter une réflexion critique sur la fable. Je crois que ça irait peut-être dans le sens de votre démonstration.
Il me semble qu'à partir du moment où je mettais ensemble le monologue et l'aparté, justement, c'était isolé dans le texte du théâtre, ce qui n'appartenait pas au dialogue entre les personnages, mais qui n'avait de destinataire que le public, oui.
Et alors justement, vous avez dit à juste titre que dans les pièces qui suivent Cromwell, on a beaucoup moins d'aparté, effectivement, il y en a moins, mais ça recommence avec le théâtre en liberté, notamment dans 1000 francs de récompense et dans Mangeront-ils, où là, précisément l'aparté est le propre du personnage qui introduit la distanciation, que ce soit Glapieux dans 1000 francs de récompense ou Airolo dans Mangeront-ils, qui invite là très directement le spectateur à fournir sa propre réflexion sur l'intrigue.
Oui, oui. Non, mais ça, il y a une ressemblance entre Cromwell et le théâtre en liberté qui est une familiarité qui ne partage pas avec les autres pièces d'Hugo. Peut-être parce que toutes ces pièces, justement, ont été conçues dans la liberté du théâtre même, de la scène. Et il y a un autre point qui se rapproche du théâtre en liberté, c'est les répliques de la foule à l'acte 5 qui sont données sans attribuer. Enfin, c'est la foule qui parle. Cet ensemble de textes est divisé en voix différentes qui ne sont évidemment pas attribuées. Et ce qui crée une sorte de polyphonie qu'il y a aussi dans le théâtre en liberté, dans les petites pièces où les arbres et les petits oiseaux se mettent à parler. La forêt mouillée, je crois.
Oui.